Le masque et la plume. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la scène du théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré à l'actualité estivale du cinéma avec la délicieuse Charlotte Lipinska de Vogue, Xavier Le Herpeur non moins délicieux de 7ème Obsession et d'une heure en série qui s'arrête momentanément pendant l'été mais qu'on retrouve dès la fin du mois d'août sur notre chaîne avec Eric Neuhoff qui est rarement délicieux du Figaro et avec Pierre Murat de Télérama qui peut être
mais
voilà, qu'elle aujourd'hui une
sur la fin seulement
qui a une chemise délicieuse. On a vu pour vous été 85 Divorce Club à la demande de Xavier, Le sel des larmes, Aboulela, La nuit venue, et on parle de deux rééditions, le fameux crash de David Cronenberg et Nico 1988 sur l'icône du Velvet et de Neuhoff dans le courrier de la semaine. Les dents de la mer de Spielberg, dont nous avons parlé il y a quelques semaines, fait beaucoup réagir nos auditeurs. Pour Jérôme Duvivier de Lyon, le meilleur dans Les dents de la mer, c'est la scène d'ouverture où le requin n'est que suggéré, un cri étouffé, un mouvement, un vaste rond au bord de l'eau. Presque du Bresson dans Mouchette. N'exagérons pas qu'il s'agit d'un blockbuster. Mais je dois avouer que Jérôme Duvivier, merci, parce que ça, je le ressortirai à propos des dents de la mer, presque du Bresson dans Mouchette. Excellent. Bonjour, cher masque adoré, plus mieux, mieux, ajoute Sylvie de Chambéry, qui est prof d'anglais. Allons droit au but, je suis horrifié par les propos de Michel Simon sur Les Dents de la Mer, un film que je vénère. C'est extrêmement bien filmé, bien documenté, et la pêche au gros est parfaitement restituée. C'est magistral, le titre du film est un chef-d'œuvre à lui tout seul. Jaws, c'est-à-dire mâchoire en français, aurait été nul. Là, c'est très poétique. Patrick de Sèvres de Bruxelles répond à Xavier que le chasseur de requins joué par Robert Shaw n'incarne pas l'Amérique conquérante. C'est un avatar moderne du capitaine Ahab, le personnage de Moby Dick, traumatisé par son expérience avec les requins. L'idée d'introduire dans une fiction un événement historique, à savoir le naufrage de l'Indianapolis, est géniale. Et le monologue du pêcheur qui décrit ce qu'est une attaque de requins est absolument terrifiant. Virginie Tavernier réagit à l'échange entre Pierre Murat et Camille Nevers à propos de la musique de Dents de la Mer. Je leur donne un petit conseil que je sers à mes enfants en même temps que le brocoli. Tiens, c'est un joli zogba. On ne dit pas c'est mauvais, mais j'aime pas.
Voilà. Ah non, que c'est mauvais.
C'est très mauvais. Je le persiste.
Et puis, car je ne peux pas lire toutes vos lettres sur le sujet, Pierre-Emmanuel Le Pay de Strasbourg recommande à Camille Nevers de se concentrer sur le cinéma et non la musique des films, car ne pas réaliser que la musique de Psycho est sans doute une des plus géniales partitions composées pour le cinéma et la mettre au même niveau qu'une partition de John Williams qui signe la musique des Dents de la Mer est assez désolant. Enfin, rien à voir avec Les Dents de la Mer, un très joli message qui me touche, qui nous touche tous ici, de David Héranval Mallet de Nantes. Je veux juste vous dire que trois voix féminines récemment disparues me manquent, nous dit David Héranval Mallet. Leur phrase est si particulière, le débit de leur voix qui faisait qu'on les écoutait aussitôt, l'humanité qui s'en dégageait. Au fil des ans, on avait fini par croire qu'elles allaient nous accompagner toute notre vie. Il s'agit de Agnès Varda, de Marceline Loridan-Evans et de Daniel Eman. J'écoute régulièrement des podcasts pour retrouver l'intelligence de leurs propos et toute l'émotion qui transparaît dans leur voix. Longue vie au masque et la plume. Daniel, effectivement, notre cher Daniel, disparu il y a exactement un an. C'était le 25 juillet 2019, qu'on a tant aimé et qu'on n'a pas fini d'aimer. Été 1985, un film de François Ozon, sorti le 14 juillet avec deux jeunes inconnus, Félix Lefebvre et Benjamin Voisin, mais aussi Valeria Bruni-Tedeschi, Isabelle Nanty et Melville Poupeau. Le cinéaste, de grâce à Dieu, adapte ici un roman qu'il a lu en 1985, justement. Ozon avait 17 ans. Et qu'il a tellement marqué qu'il s'était dit à l'époque, si un jour je fais du cinéma, mon premier film sera l'adaptation de ce roman. Il s'agit, moi je l'avais pas lu, hein, de La danse du coucou du britannique Adam Chambers. François Ozon a situé l'histoire, lui, sur la plage de Galais du Tréport. En Haute-Normandie, Alexis est un garçon de 16 ans, d'origine modeste, donc Félix Lefebvre, parti seul en mer sur un voilier qu'on lui a prêté, chavire, et David, 18 ans, c'est donc Benjamin Voisin, surgit comme Zorro et vient aussitôt le sauver. C'est le début d'une aventure amoureuse qui va se terminer, puisqu'on le sait dès le prologue, de manière tragique. Alors je ne dis pas ni comment, ni pourquoi. Un teen movie revendiqué, tourné en pellicule Super 16, avec la BO des années 80 qui fait encore danser Xavier Le Harpeur, toute première fois de John Mass. Et Selling de Rod Stewart, qui va avoir dans le film d'ailleurs à un moment donné dans une boîte de nuit un sens particulier. Peut-être l'un des films les plus personnels du prolifique François Ozon Xavier.
Tu as oublié les Cures aussi. Et les Cures sur le générique.
Attends, mais il y en a beaucoup.
Ouais, mais quand
attends,
même.
Attends, il y a une dizaine de...
Les Cures. Mais moi, oui. Je suis comme François Ozon, enfin vraiment très modestement. Je vénère les Cures et toute cette période des Pêche Mode. Enfin, on a eu à peu près le même âge au même moment. Quand j'ai vu le film, j'étais un peu déçu. C'est vrai qu'après, Grâce à Dieu, qui est un film quasiment parfait à la fois dans son approche et dans sa facture, je me dis, bon, c'est plus mineur, c'est plus léger. En même temps, il a choisi la pellicule.
C'est le cas de le dire.
Ce qui n'est pas plus léger, entre guillemets, puisque ça demande quand même une certaine maîtrise, une certaine virtuosité. C'est un livre, tu l'as dit, l'histoire est très très belle, qu'il a tellement marqué, qu'il a disséminé pratiquement dans toute l'œuvre de Ozon. Donc il y a quelque chose de très beau d'ailleurs, il le dit lui-même, depuis la petite robe d'été jusqu'à France. Ce sont des thématiques, ce sont des motifs qu'il a réutilisés. Fallait-il pour autant revenir à ce livre de chevet, c'est peut-être un tout petit peu la question que je vais poser, même si j'aime plutôt bien le film, l'histoire de deux garçons qui s'aiment, mais qui ne s'aiment pas de la même manière, pas sur le même diapason. L'un, c'est pour toujours, et l'autre préfère la frivolité, comme ça, d'un amour d'été.
Qui est incarné par cette scène dans la boîte de nuit.
Dans la boîte de nuit.
Où l'un, avec un Walkman, comme on disait à l'époque, écoute justement Selling de Rod Stewart, alors que l'autre danse frénétiquement.
Et on l'a tous connu, enfin, je veux dire, homo ou hétéro, ça n'a aucun rapport avec la sexualité, la nature de la sexualité, cette différence d'appréhension de l'autre, cette différence d'amour, d'exigence, surtout quand on a 17-18 ans, où tout nous semble tellement important, tellement vital, tellement unique. On veut tout mélanger, à la fois la grande passion et la découverte du cul. C'est un peu ça, on confond les choses, il faut se souvenir un tout petit peu de cette période. Bon, Eric, ça va lui demander un effort de mémoire trop
ça
conséquent.
Ça n'est pas encore arrivé.
Et bien sûr, voilà. Après, le film, il a décanté, je me suis un peu réconcilié avec lui, je continue de penser, puisque c'est un des choix de François Ozon, qui est de différer le suspense, alors que dans le livre, il est assumé dès les premières pages, ne donne pas quelque chose de très probant, ce que tu n'as pas voulu dire.
Ce qu'on dit, ce qu'on croit au début n'est pas ce qu'on va vivre après.
Non, mais on a quand même une promesse de fétichisme, par exemple, dès le départ. Ça va être une émission très fétichiste, d'ailleurs, puisqu'il dit « ce cadavre m'a fait beaucoup d'effet » et dès que le jeune garçon dont le narrateur tombe amoureux, il lui dit « c'est lui, le cadavre », on se dit « bon, il va se passer quelque chose, il y a une scène à la morgue, je ne raconte évidemment pas la fin ». Je ne suis pas sûr que ça donne quelque chose de très probant en termes de récit ou en termes de cinéma. J'aurais préféré effectivement que se déroule le film de façon plus linéaire, avec tous ses souvenirs cinéphiles, parce qu'on a parlé de la musique, mais il y a aussi, il l'habille à un moment comme Pascal Grégory dans Pauline à la plage, enfin c'est nourri aussi de tous les souvenirs
et de ses propres films, parce qu'on trouve aussi bien Sous le sable
absolument
que des scènes de France.
Donc voilà, donc c'est un film vraiment, c'est un des meilleurs que nous avons ce soir.
Franchement,
à l'émission, mais évidemment de très très loin.
Quand on voit ce qu'on a à voir pour
cet été. Et c'est
vraiment
le film à voir en ce mois de juillet, mais néanmoins... Il y a des choses qui ne me conviennent pas.
On t'a entendu, Xavier. Moi, je suis pas d'accord, mais on t'a entendu, Charlotte.
Mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Xavier, sur ce système de narration, parce que à partir du moment où, dès le début du film, on a effectivement ce jeune garçon qui s'adresse à nous et qui annonce le drame qui va advenir, tout le film après qu'on voit à rebours, du coup, je trouve que on savoure d'autant plus les instants de bonheur, la rencontre, l'aspect solaire et estival du film, parce qu'on sait que ces minutes-là sont précieuses puisque ça va mal finir.
Mais il y a un suspense un peu inutile autour de ce qui est reproché à ce jeune garçon, quand même.
Parce que
moi, j'ai pas lu le livre, je savais pas au début ce qui allait se passer.
Moi non plus. Après, comme tu le disais très justement, on retrouve tous les motifs du cinéma de François Ozon, alors que ce soit le travestissement, le rapport au professeur de lettres, une scène à la morgue aussi qui était dans Sous le sable. Et là, je trouve que, alors, c'est non pas un Reader Digest de l'œuvre de Ozon, mais c'est à la fois un film éminemment personnel et très différent de ses films précédents. Et en ça, je trouve que c'est un cinéaste, moi, qui me surprend toujours, parce que d'un film à l'autre, il parvient à nous surprendre avec pourtant des fils et des thématiques qu'on retrouve d'un film à l'autre, mais la forme est très différente. Et là, je trouve très beau le côté estival et solaire du film qui peu à peu va glisser effectivement dans le drame et ce romantisme absolu qu'on peut avoir à l'âge de l'adolescence avec cette question merveilleuse, est-ce qu'on invente les gens qu'on aime ?
C'est une phrase à la fin du film qui est magnifique. C'est très beau.
Et puis, on va quand même dire un mot des comédiens parce que ces deux jeunes garçons, alors on les avait tous les deux repérés déjà dans des films, hein, ils sortent pas de nulle part, mais là, ils sont filmés avec une douceur, une tendresse, ils sont beaux comme des astres.
Et puis le blond et le brun s'opposent vraiment.
Complètement. Enfin, et encore une fois, pour le coup, l'homosexualité n'est ni un problème, ça n'est même pas le thème du film, et j'aime beaucoup la façon dont ça n'est pas du tout l'enjeu du film.
Dans cette station balnéaire normande, qui est plutôt de tradition ouvriériste, on n'est pas dans un lieu paradisiaque et artificiel, hein, c'est un lieu qui a aussi son sens. Éric.
Bah, c'est sincère et maladroit, j'ai trouvé. Mais si la maladresse n'est pas forcément un défaut, la sincérité n'est pas toujours une qualité. Et je me demande si Ozon n'a pas trop attendu pour tourner ce film. Si son âge n'est pas un problème. Si ce qu'il avait frappé à l'époque, il n'arrive plus complètement à le retrouver. La preuve, c'est qu'il y a encore une voix off qui est très très mauvaise. Parce que dès le début, le gamin nous dit « je m'intéresse à la mort avec un grand thème ». On se dit « oh là 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 ».
La voix off est moins présente que dans le film de Philippe Garrel.
Oui, mais c'est un problème aussi, d'ailleurs.
Et plus utile, quand même.
Oui. Vaguement, oui. Non, mais le film est sympathique, très estival. On sent vraiment la saison dans cette station balnéaire. C'est un peu surjoué, un peu attendu, parce que dès le début, moi, je n'avais pas lu le livre, mais on devine bien ce qui va se passer.
Ah non, Eric.
Je ne suis pas Sherlock Holmes, mais j'avais vaguement deviné. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'homosexualité ne compte pas du tout là-dedans. Il n'y a pas de problème ni avec les parents, ni rien du tout. Et ça, c'est assez bon. Toutes les références aux années 80 sont rigolotes. Il y a cette séquence dont vous parliez dans la boîte de nuit avec le Walkman et Rod Stewart. Mais ça, on l'avait déjà vu chez Dolan hein, aussi. Il y avait ça dans Mommy, il me semble. Et il pense surtout à la Boum.
Je me demande du coup ce qu'est devenu Pierre Cosso à cause de ce film.
Parce que c'est un mélange pas désagréable de Max Pécasse et de Roman Photo, été 85.
Une gravité, je rappelle que 85, c'est l'éruption du sida aussi. Hein. C'est-à-dire c'est presque le dernier été insoucieux et insouciant.
Oui, mais ça n'y est pas du tout. Et pour cause. Mais bah non, 85, je trouve que aussi que pas, Valéria Bruni en fait un peu des tonnes en mer envahissante à l'italienne presque. Mais le film est assez à la fois verbeux et sympathique. Mais j'admire Ozon parce que c'est quelqu'un qui ne réussit pas à chaque fois ses films mais qui arrive à en tourner un par an. Et celui de l'année dernière,
qui était grâce à Dieu, qui, je vous le rappelle, a obtenu le prix des auditeurs du Masque et la Plume, Pierre.
Max Pécasse, quand même, tu y vas fort, quand même. Parce que vraiment.
Mais non, c'est presque un compliment dans ma bouche.
François Ozon est quand même un de nos plus grands cinéastes actuels. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Xavier, donc je vais pas répéter, mais oui, moi-même, j'ai été un tout petit peu déçu parce que, simplement, tout ce que vous avez dit, les uns les autres, c'est des références au film précédent de Ozon, qu'il a fait parce qu'il a été,
le seul lien étant Melville Poupeau, d'ailleurs.
Oui, absolument. Bien sûr. Mais, c'est-à-dire, le problème, c'est qu'il a fait des choses magnifiques. C'est-à-dire, le prof et l'élève, il a fait Dans la maison, qui est un film absolument magnifique. Mmh. Le cimetière, il a fait Franz, qui est un film magnifique. Donc, il a fait déjà
le
tellement mieux que...
Le travestissement aussi, dans un de ses films, j'ai oublié le titre.
Les petites robes d'été.
Et d'ailleurs, il a repris pratiquement la même robe. Donc, voilà.
Ma meilleure amie,
voilà,
surtout.
Aussi. Non, mais voilà.
Donc, la petite robe d'été,
alors, simplement,
l'été,
ce que je trouve très réussi, c'est parce que c'est un cinéaste qui est très léger. Donc, sur un drame romanesque, romantique, il arrive à apporter une légèreté. Et moi, contrairement à toi, je trouve le personnage de Valéria Bruni-Tedeschi très bien dans la première partie, parce qu'elle a... Là, il y a une référence à un autre cinéaste qu'il aime beaucoup, c'est Jacques Demy. Moi, elle m'a fait vraiment penser au maire de Jacques Demy, c'est-à-dire Micheline Prel dans Les Sept Péchés Capitaux, ou Daniel Darieux dans Les Demoiselles de Rochefort. C'est-à-dire que ces femmes un petit peu faux-folles qui arrivent
ou
là,
qui
déshabillent les amis de leur fils en disant « Ah oui, mais t'es bien là !» et qui part comme ça. Et, non, mais
elle enlève le slip.
Oui, mais voilà, mais tout ça se passe dans la légèreté. Et ça, il le réussit vraiment très bien. Dire que c'est un très grand Ozon, non, mais c'est un des grands films que l'on peut voir cet été.
Encore une fois, c'est un été difficile à tout point de vue.
Voilà.
Et moi, en tout cas, je conseille Été 85 de François Ozon, beaucoup plus que Divorce Club. Le troisième film comme réalisateur de l'acteur et humoriste Michael Youn, avec Arnaud Ducret dans le rôle de Ben, qui découvre après 5 ans de mariage que sa femme, dont il est toujours amoureux, le trompe et le plaque. La scène est d'ailleurs censée être drôle. Sa femme s'envoie en l'air avec son patron, incarné par Benjamin Biolay. Et tous les employés de la boîte peuvent entendre leurs ébats lors d'un cocktail où Ben a été convié, puisque ses ébats sont transmis par ses enceintes. Il emménage ensuite chez le très fortuné Patrick, qui est joué par François-Xavier de Maison, lui aussi divorcé, mais très heureux de profiter de son célibat pour s'adonner au plaisir auquel il avait renoncé pendant son mariage avec d'autres divorcés. Donc, ils vont créer le Divorce Club. Au générique, il y a aussi Audrey Fleurot, Grégoire Bonnet, bien sûr Michael Youn. Voilà, avec un mur du son de la vulgarité qui, je pense, est quand même presque franchi Pierre.
Ben, ça se passe, comme tu l'as dit, chez des gens vraiment très friqués, quand même.
Hein. Très friqués.
Ah, vraiment, vraiment.
La maison de maison, si je veux dire, c'est dans le sud.
La voiture, c'est vraiment, on est quand même chez les hyper friqués, les hyper cons et les hyper vulgaires, plus que voilà. Donc, je trouve que c'est un film qui est un film extrêmement moralisateur, parce que ça voudrait prôner une espèce de liberté retrouvée, alors que naturellement, toutes les femmes sont quand même...
À la fin, il y a une morale...
Voilà, mais toutes les femmes sont quand même des garces qui sont quand même très, très, très flattées que les hommes se battent pour elles. Et puis, surtout, ça donne une idée, c'est-à-dire que si véritablement les fêtes, le monde qu'il défend, c'est ce monde de fêtes, de stupidité, de beuverie,
Ferrari.
Oui, mais ça donne surtout une seule envie, c'est en effet... de se confiner à nouveau, d'éviter les gens comme ça, d'éviter les fêtes, d'être fidèle à une seule et même personne et de ne plus bouger tellement les autres sont cons, quoi. C'est terrifiant. C'est-à-dire que c'est un film qui prétend être libertaire et tout et qui est d'un moralisme absolument sensationnel.
Je suis pas sûr qu'il prétende être libertaire.
Non, il prétend pas, mais enfin, c'est la leçon qu'on en retire. Oui.
Il prétend surtout faire beaucoup d'entrées. Eric.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, Jérôme? J'ai pas vu un truc aussi dégoûtant depuis les Tuches 3 que tu nous avais obligé à voir à l'époque. Là, c'est va falloir trouver un nouveau mot parce que vulgarité, c'est presque flatteur pour un résultat pareil. C'est épouvantable. Une émission d'Arthur à côté, ça a l'air d'être lecture pour tous. Mais comme dit Pierre, on a envie d'être pauvre, fidèle et de pas habiter dans le Midi. C'est terrifiant. C'est tellement mauvais qu'on a l'impression qu'il n'a gardé que les scènes coupées. Mais c'est pas drôle, c'est bête, c'est laid, c'est con, on se demande où ça va. Si vous entrez dans la salle, en tout cas, mettez un masque, mais sur les yeux. Et quand vous sortez, essuyez-vous les mains avec le gel parce que vous allez être infecté par cette cochonnerie.
Charlotte.
Bon, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute
c'est un film féministe.
À ça? Évoquer le divorce comme une libération, pourquoi pas? Enfin, ça pourrait donner lieu à des choses évidemment très drôles, ce qui n'est pas tout à fait le cas comme on l'a compris. Moi, je trouve que quand même, Michael Youn, à l'époque où il avait fait les 10 commandements, ça m'avait fait hurler de rire. Les 11 commandements. Il y avait des séquences que je trouvais extrêmement drôles. Alors, c'est sûr que c'était un humour très potache et très régressif, avec des caméras cachées. Mais c'était vraiment drôle et assez audacieux pour certains paris qu'il faisait. Là, tout est tellement prévisible, c'est-à-dire à partir du moment où le copain qui fonde ce divorce club dit à notre héros « Bon, je t'accueille chez moi, mais je te préviens, il y a deux choses auxquelles tu peux pas toucher. Un, mon ex-femme. Deux, ma bagnole. Bon,
ma Ferrari,
puisque c'est une Ferrari de collection qui n'a jamais roulé, parce qu'il en a 10 des bagnoles comme ça. Bon, bah voilà, là, la seule question qu'on a, nous, c'est au bout de combien de temps de film, il va se taper son ex-femme
et
il va plier la voiture. Bon, voilà. D'ailleurs, des voitures, on va en parler beaucoup aujourd'hui. Non, bah voilà, il n'y a rien à rajouter. Après, j'aimerais dire que ça remplit sa mission de divertissement tout public, familial, bien rythmé, parce que quand on va voir Divorce Club, on ne peut s'attendre à rien d'autre que ça. Et là, ça ne le remplit même pas.
Et puis, je te trouve quand même, si tu permets, chère Charlotte, que le sort réservé aux femmes dans ce film...
Ah oui, non, mais là, je ne vais même pas sur ce terrain-là, parce que l'émission, elle est courte et qu'on a...
Presque.
On a beaucoup de films plus intéressants, on ne va pas
Xavier.
Y passer.
Oui, mais quand même, on va quand même dire un mot sur la misogynie, mais poisseuse du film. Oui, des emmerdeuses, des garces, des castratrices qui manipulent les hommes par la bite, faut dire les choses telles qu'elles sont, avec le personnage de Frédéric Bell qui kidnappe notre pauvre héros pour en faire le géniteur de ses enfants à venir. Enfin, je veux dire, c'est effroyable, la femme qui a trahi et qui ne s'en excuse absolument pas. T'as parlé de Benjamin Biolay. C'est le seul gag un peu drôle, ils ont essayé de nous faire croire que Benjamin Biolay, le chanteur préféré de France Inter et Télérama, jouait dans le film. C'est un clone! C'est un sosie, c'est pas lui, c'est pas possible. Il a vraiment des problèmes de fin de mois. Il est mauvais comme cochon, évidemment, comme
d'habitude. De début de mois, même, pour jouer.
Comme dans tous les
les films. Hein.
Comme dans tous les films, on comprend pas un mot, faut le sous-titrer.
Benjamin Biolay. Enfin bon,
on le voit. Ah bah au cinéma, non.
Je veux dire, c'est toujours avec
les gars, c'est quand même une catastrophe.
Une espèce d'absence présence qui.
Après, on a un placement de produit M6 qui est quand même.
Le placement de produit est insupportable.
Déjà, il travaille chez Stéphane Plaza. On peut le dire. On a une scène chez IKEA. J'ai encore droit à deux marques, hein, il me semble, d'après les
alors,
lois.
Alors je vais t'aider, il y a la montgolfière Giffy.
Voilà, il y a la montgolfière Giffy.
C'est pour ça qu'il n'a pas réussi
IKEA,
à monter le film.
Qui a dû coûter un bras quand même, et qui est consternant, parce que IKEA serait le temple de la séparation du couple, en tout cas l'endroit où on s'aperçoit le plus que personne n'est fait pour vivre avec personne. C'est absolument consternant. Et alors on a quand même un lémurien gifleur, vous avez oublié quand même de parler de ce gars.
Je l'ai cité, t'as
raison. Qui est quand même au sommet.
Et là, y compris dans la piscine. Il peut gifler sous l'eau.
Il faut que la SPA intervienne.
On a un moment, donc, en tant que, donc, agent immobilier fait visiter Alex, mais on ne le sait pas encore, de François-Xavier de Maison, mais on devine, un sex shop, et il lui dit, donc, il y a une grande ouverture à l'entrée, et derrière, il y a une petite porte plus étroite. Waf, 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 waf. Ben voilà, c'est du niveau, mais zéro. C'est absolument vulgaire, c'est pas écrit, c'est même pas joué, c'est honteux.
C'est Divorce Club de Michael Youn. On passe au film de Philippe Garrel, c'est peut-être la seule émission où on peut glisser comme ça.
Glissons.
De Youn à Garrel avec Le sel des larmes, film en noir et blanc, scénario, comme toujours avec lui, de Jean-Claude Carrière et Arlette Langman. Musique tout à fait originale et de qualité de Jean-Louis Aubert. Un jeune provincial, c'est Luc qui est joué par ce... Alors, c'est que des comédiens qu'on connaît presque pas, à part Amamra. Donc c'est Luc qui est joué par Logan Antuofermo, qui arrive à Paris pour passer le concours d'entrée à l'école Boulle, section ébénisterie, puisque son père est ébéniste. Dans la rue, il rencontre par le plus grand des hasards Djemila, qui est donc la houlaya de Amamra de Divine, entre autres, avec qui il a une aventure brève, pas totalement complète, mais brève. De retour chez son père en province, donc un menuisier qui fabrique essentiellement des cercueils et qui est joué par le magnifique André Wilms, il retrouve une ex qui est donc Geneviève, Louise Chevillotte, qui lui fait un enfant. Il lui fait un enfant et il repart pour Paris où là, il a été enfin reçu à l'école Boulle. Lors de ce deuxième séjour, essayez de me suivre hein, parce que c'est pas évident. Lors de ce deuxième séjour, il rencontre Betsy, qu'est Souheila Yacoub, qu'il va devoir partager avec Paco. Là, ça devient compliqué. Ils sont trois à la fin.
Oui, bah, c'est un trouble, hein, oui. Ça arrive à tout le monde. Hein.
Oh non, un sexe.
Ça ménage à trois.
Un trouble. Ça s'appelle un trouble.
Ah, pardon. Pardon, j'ai compris, il y a un couple, excuse-moi.
Oh là 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 là.
Il est démodé. Il est
un peu démodé, Pierrot.
Comme André Wilms, d'ailleurs.
Ah, t'as vraiment une sexualité du XXe siècle, toi.
C'est donc le portrait d'un jeune séducteur, qui est aussi un jeune lâche, traité à la manière de Garrel, c'est-à-dire de manière sobre. Le film dure 1h30, hein, court, noir et blanc. Eric.
Moi, je suis toujours frappé par le peu de choses que ce cinéaste a appris dans la vie. Sur la vie, justement, sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur les rapports entre les pères et les fils.
Il a fait des films magnifiques.
Au début.
Il y a longtemps.
Les films avec Gene Seberg et avec Nico.
Cicatrice intérieure, qui est un des plus grands films.
Ah mais oui, mais ça, il avait 12 ans presque. Oui. Là. C'était un génie, on l'appelait le Rimbaud du cinéma. Là, maintenant, c'est un petit peu le Paul Guth de la nouvelle vague. Il radote, c'est toujours la même histoire. Là, quel tombeur, là, ce type, cette espèce de dépendeur d'andouille. Il faut aimer les grands dadais à sac à dos, là. Elles tombent toutes.
On se demande bien pourquoi, ouais. Aucun charisme. Ah, charisme
une
d'une nuit.
En train de sécher sur un évier. Alexandre Vialat disait que l'homme était un animal à chapeau qui attendait l'autobus 21 au coin de la rue Glacière. Là, on l'attend à la station 121 et tout de suite, la fille qui est en face vous tombe dans les bras. Il retourne chez lui, paf, comme par hasard. Son ex est amoureuse à nouveau de lui. Il retourne après à Paris, boum, il tombe sur une infirmière qui fait regretter, parce que c'est très très mal écrit, c'est très très plat.
C'est compliqué la manière dont il tombe sur elle, parce que c'était en sortant. Enfin, c'est un de ses copains qui va rencontrer une fille et qui lui dit « amène une fille aussi pour mon copain ».
Oui, mais comme infirmière en noir et blanc, il y avait l'inoubliable Françoise Lebrun de La Maman et la Putain. Et là, on est loin du compte, parce que cette voix off, c'est épouvantable. Puis, il n'a pas du tout l'âge du rôle, ce gars, pour découvrir toutes ces choses-là. Il dit, à un moment donné, la voix off dit « c'est ce qui préoccupait Luc à cette époque, c'est qu'il n'était pas sûr que l'amour existe ». Ah bah dis donc, mon pauvre, quelle nouvelle, ça. Il filme assez bien une séquence de danse, à un moment donné. Qui est trop longue, évidemment, sur une musique de Jean-Louis Aubert, qu'on entend au piano, et ça, c'est très très bien, mais c'est un film qui ne vous apportera rien, et qui est pas toujours très bien écrit, parce que l'étudiant qui rentre chez lui et qui dit à sa petite amie « c'est quoi comme Frishti ?» On voit que Jean-Claude Carrière a participé au scénario, parce que pourquoi pas boulot-boulot, menuise-menuise, comme Raymond Bussière dans Casque d'or.
Pierre.
Oui, c'est raté, mais c'est un... Moi, j'aime bien Philippe
Garrel. Mais pas plus que
d'habitude. Non, mais j'aime bien Philippe Garrel, c'est-à-dire... Non, mais quand je vois un film de Philippe Garrel ces dernières années, c'est comme lire un roman de Modiano, je veux dire, pour moi, parce que... Je m'entends, parce que Modiano, c'est toujours un peu la même chose, c'est jamais pareil, il ressasse sur les mêmes thèmes, et donc ça me plaît bien. Qu'un auteur vive dans un monde très très clos, très 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 vieux en effet, parce que tout ça est complètement dépassé. Ça pourrait se passer au 19e siècle presque d'une certaine façon, le niveau des sentiments. Le problème, c'est que là, dans ce cas-là, moi, il y a deux défauts majeurs pour moi. C'est, alors, je suis désolé, Jérôme, mais je suis pas d'accord avec toi sur la musique. Je la trouve, elle est nulle.
Elle apparaît
brusquement et à contre-temps. Alors moi,
je la trouve très délicate.
La musique, pour moi, est un des deux gros défauts.
C'est du Aubert délicat. Non, je suis pas d'accord.
Et le deuxième grand défaut, c'est les acteurs, parce que les acteurs, ce qui est bien quand il réussit son coup, c'est de trouver des comédiens qui s'infiltrent dans les vides qu'il laisse, comme ça, dans les failles, qui remplissent un peu cette espèce d'univers bizarre et tout. Et là, les filles sont pas très bonnes, et le garçon, il est très plat. Ce qui fait que les habituels, même les fans de Garrel, à mon avis, seront déçus parce que, et alors du coup, le personnage de Wilms, quand même, vous me disiez que j'étais vieux parce que je connaissais pas je faisais semblant de pas connaître le mot de Xavier, mais là, le père, c'est un vieux monsieur mais donc il a mon âge, et qu'il arrive en 2017-18 à dire à la petite copine de son fils qui vient le voir en disant, pleure pas petite, enfin, je vois pas un mec qui vient dire, pleure pas petite.
Pourquoi ?
Enfin, mais non, mais c'est justement, ça prouve justement qu'on est complètement dans l'intemporalité, mais le problème, c'est que ça marche pas.
Charlotte.
Bah oui, c'est sûr qu'on est dans un film de Garrel et que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il cède pas aux sirènes de la mode, quoi. Il y a un style Garrel qui est épuré, minimaliste, en noir et blanc toutes ces dernières années, mais là, je trouve que le minimalisme confine à l'inconsistance totale du scénario et de l'écriture des personnages. C'est-à-dire que dès le début, le film se passe en 2019, on ne croit pas une seule seconde que on croise une fille comme ça qui attend le bus, on dit ah je peux avoir ton numéro, je peux venir te chercher ce soir au boulot, puis la fille elle dit oui bien sûr, retrouvons-nous, enfin tout est comme ça, c'est des accélérations du scénario auxquelles on ne croit pas. Et moi, le problème que j'ai principal, c'est que le garçon qu'on suit du début à la fin, il est mou, il est lâche, il est inconsistant,
je trouve très
il n'a aucun
avec
charisme.
Logan Antio Fermo.
Et il en devient même très antipathique.
Il faut nous humilier.
Il devient ultra antipathique. Le film s'appelle Le sel des larmes, mais de quelles larmes on parle ? Je veux dire, il n'y a ni l'émotion d'une romance inachevé, alors il reste le sel, ni les larmes sur la filiation, puisqu'il y a cette double thématique. Et heureusement qu'il y a André Wilms dans le film, qui, moi, ce sont les seuls instants qui m'ont un peu sauvé de la torpeur.
Xavier,
c'est une grande déception pour quelqu'un qui, comme moi, adore Garrel, y compris dans les films récents, Les Amants réguliers ou L'ombre des femmes. Je trouve que c'est quand même. Ben non, c'est pas si vieux que ça. Ce sont films qui, non, effectivement, là, il accouche d'un roman photo. Avec des dialogues qui sont dignes de romans photo. Toi et les filles, ça fait pas deux. Il y a un moment, André Wilms à son fils. On n'écrit plus ça quand même. On n'écrit d'ailleurs jamais ça à aucune époque.
Voilà. Bien d'accord.
Tu m'aimes, oui, pour le moment, dit la jeune fille à son amoureux. On a un fondu au noir pour bien nous faire comprendre que ça ne durera pas. Merci, on l'avait compris depuis longtemps. Et comme dans les romans photo, on a. Alors, c'est une voix off, mais dans les romans photo, il y avait toujours des choses qui nous indiquaient ce qui allait se passer. Il a là rue Boulle à l'école d'ébénisterie. Et on le voit rue Boulle à l'école d'ébénisterie. Bon, donc la voix off, on pouvait peut-être la gommer, ce n'était pas utile. Et régulièrement, elle raconte ce qu'on voit exactement à l'écran ou ce qui va annoncer le dialogue suivant. Donc pourquoi nous a sonné cette voix off qui n'a aucun intérêt, qui ne raconte rien, avec des phrases brèves. Et alors, je suis comme Pierre, au secours, la musique de Jean-Louis Aubert. On ouvre une porte, Jean-Louis Aubert. On ferme la porte, Jean-Louis Aubert. On va au supermarché, Jean-Louis Aubert. Non mais au secours, quoi, pitié, avec ces trois notes au piano. C'est la fausse légèreté qui devient balourdise pour
exactement.
Moi.
Bon, eh bien, c'est le sel des larmes, c'est Philippe Garrel.
On a fait beaucoup de peine à Jérôme Garcin.
Allez, un peu plus vite, La Nuit Venue, premier film sorti le 15 juillet, de Frédéric Farucci, polar sino-parisien, avec Amélia Giordana, Guang Ho, Xun Liang. On pénètre dans ce film la mafia chinoise de France avec Jin, qui est donc joué par Gwang Ho, un sans-papier endetté, ancien DJ, fan d'électro, qui conduit la nuit un VTC pour le compte de mafieux et qui va rencontrer Naomi, donc c'est Camilla Jordana, stripteaseuse qui sort d'une boîte et lui demande d'être, à ses risques et périls, son chauffeur attitré 1h30 et photographie assez juste de ce milieu que personnellement je connais très mal, mais Xavier connaît bien.
Je connais surtout les restaurants chinois, donc ça ne me donne pas quand même une prétention à l'analyse sociologique.
La mafia chino-parisienne, tu la connais bien, il paraît.
Ah, pire, surtout moi qui n'ai pas le permis, tu comprends, le trafic de voitures, c'est mon truc quand même. Et c'est pas péjoratif dans ma bouche, on dirait presque un polar des années 80. Nocturne comme ça, où on se promène, où on se balade, où on étire un tout petit peu le temps, il y a un côté comme ça, avec la lumière, avec les contrastes, avec les couleurs qu'on voit dans les boîtes de nuit. Moi, ça m'a rappelé certains films qu'on a bien aimés à cette époque-là. C'est pas désagréable, le scénario est quand même un peu perclus d'archétypes et d'images et d'idées un peu reçues.
C'est un premier, hein.
C'est un premier, non mais voilà.
C'est prometteur.
Mais en termes de mise en scène, en revanche, je trouve que vraiment, il y a une immersion dans la mélancolie, dans cette espèce de sensualité comme ça, un peu sombre, un peu étranglée de la nuit, des choses interlopes sous les boîtes de nuit, qui sont sous les ponts, enfin voilà, il y a des endroits un peu mystérieux comme ça. Il sait très très bien gérer le temps, alors que de temps en temps il ne se passe rien. On est sur le périph et on voit juste une voiture qui file et les lumières de
on
la
est beaucoup en VTC,
de hein. la ville. Mais voilà, mais en même temps ça confère vraiment une ambiance au film et ça pallie effectivement un scénario un peu prévisible, un peu marqué, un peu programmatique comme dirait Jean-Marc Lalanne. Ce qui fait que c'est plutôt une bonne surprise. C'est agréable, il y a une vraie fraîcheur, il y a une vraie envie de faire du cinéma et je trouve que pour un premier film c'est indispensable.
Charlotte.
Oui, moi je trouve ça aussi comme Xavier extrêmement prometteur pour un premier film. C'est vrai que il y a une très jolie mise en scène, un esthétisme de l'image qui marche très bien. Alors c'est sûr que le scénario il est un peu inconsistant et en même temps il y a cette lenteur et une délicatesse, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de délicatesse dans la façon dont il montre la rencontre de ces deux solitaires de la nuit et sur cette histoire d'amour naissante. Et sur le papier, on se dit la mafia chinoise à Paris, ça va être de la violence et tout ça. Et pas du tout. Les seuls petits moments de violence sont toujours hors champ ou en tout cas suggérés mais jamais montrés. Et en ça, je trouve qu'il y a un parti pris là de mise en scène qui est très intéressant. Ça gagne un peu en intensité sur la dernière demi-heure, quand même, parce que c'est vrai qu'il y a un petit ventre mou au milieu. Et quand même, je m'étonne qu'il n'y ait jamais eu de film français avec un casting comme ça, enfin en tout cas sur la communauté chinoise, avec que des acteurs chinois, si ce n'est Camélia Jordana. Donc je trouve ça très intéressant.
C'est pas la première fois qu'elle est au cinéma.
Elle est très bien.
Elle est assez juste. Eric.
Bon, on ne va pas crier à la révélation, mais c'est une très bonne surprise. Ça. Oui. C'est un film où il y a à la fois du lyrisme et de la sobriété. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Et tous ces temps morts font le sujet du film, l'attente, ce pari mangé par la nuit. On voit assez rarement des gens travailler comme ça. Là. Alors, sur les Uber, sur ce type qui est à la fois immigré et exploité par sa propre communauté, qui appelle sa mère sur Skype, et sa mère, sa seule hantise, c'est qu'il rencontre une Française et qu'il ne revienne plus jamais là-bas. Si on était exponentiel, on dirait que c'est la rencontre de Taxi Driver et des Amants de la Nuit, mais ce serait exagéré. Mais il y a vraiment quelque chose d'une fluidité de la mise en scène. L'image est très belle, les acteurs sont parfaits. Lui, le héros, est laconique comme Clint Eastwood, pratiquement. On voit un pari qui est rarement sur les écrans, et c'est quand c'est écrit, c'est très bien écrit, parce que même Camélia Jordana, on lui met des mots dans la bouche qui sont bien, parce que quand elle fait ses textes elle-même, c'est moins percutant.
Pierre.
Ben, vous êtes quand même un peu gentil, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous ce qui concerne la mafia chinoise. Ça, c'est vraiment très bien, mais c'est presque un reportage, c'est presque un documentaire sur ça. Et là, je trouve ça absolument passionnant. Quand on commence à l'histoire d'amour, alors, pitié, non, enfin, je veux bien, mais la belle pute et le chauffeur de taxi qui ont une pure histoire d'amour...
Et alors et puis,
non, attends.
Qu'est-ce qu'il y a, Pierrot?
Si, que t'es cynique et désespéré,
Pierrot.
Mais ça, il le trouble.
Mais si, je veux bien...
Je
veux bien, mais à condition que ce soit un tout petit peu mieux mis en scène. Or, c'est quand même... Très, 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 très plein.
Très joliment dialogué, la rencontre.
Ils sont très agréables à regarder tous les deux, mais c'est tout. Et alors, plus ça avance, plus ça devient mou, et alors la fin, que je ne raconterai évidemment pas, est complètement... Non, mais si on le prend pour un documentaire sur la mafia chinoise, milieu qu'on voit très peu, parce qu'elle manifeste jamais, et elle règle ses comptes en interne, et ça, c'est très, très, très bien montré, c'est absolument parfait.
Encore une fois, c'est un premier film.
Oui, mais enfin, comme dit Michel Simon, Citizen Kane aussi. Hein.
Et donc, oui, ça, c'est la nuit venue. Autre premier film, Aboulela, qui est sorti le 15 juillet. de l'Algérien Amine Sidi Boumedienne, qui était présenté l'an dernier à la Semaine de la Critique avec Slimane Benouari, Lies Salem, Azouz Abdelkader, un film qui s'ouvre par une séquence choc. Très bien filmé, pour le coup, je trouve. Un homme dans un quartier résidentiel d'Alger tire à bout portant sur un avocat qui vient de monter dans sa voiture devant chez lui. On est en 94, l'Algérie est en pleine guerre civile, le groupe islamique armé multipliant attentats et massacres. Et le film de Sidi Boumedienne suit à la trace pendant, alors il faut le savoir, hein, c'est 2h15, deux hommes, deux flics, deux amis d'enfance, S, dont la santé physique et mentale est plutôt vacillante, et Lofty, et ils partent à la recherche d'un terroriste, le Abou Leila du titre, et petit à petit s'enfoncent jusqu'au fin fond du désert du Sahara. Et après, ça bascule, c'est-à-dire que le thriller politique devient horrifique, presque fantastique, dans des décors naturels magnifiques. Le plus incroyable, c'est que ces 2h15 dont je parlais ne suffisent pas à lever tous les mystères de ce film, qui est parfois comme une hallucination. On est entre Kafka et Beckett, Charlotte.
Alors moi, j'ai adoré. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un premier film que je trouvais aussi stupéfiant et maîtrisé, même si j'avertis quand même les auditeurs que c'est un film qui se mérite, c'est-à-dire qui est difficile. Il faut s'accrocher un peu, on met un peu nos crampons. La première heure, on est un peu perdu et il y a un basculement au milieu du film que j'ai trouvé absolument saisissant. C'est vrai que le film démarre un peu comme un thriller plus ou moins politique avec la situation du pays. Mais plus le film avance, plus cette trame narrative s'évapore dans le désert et pour arriver à, je trouve, un très grand film de climat paranoïaque. Pour moi, c'est un film absolument sur la paranoïa. Et on va petit à petit rentrer dans les névroses de l'un des deux hommes, donc S, l'initial, dont on finit par ne plus savoir si ce qu'il voit et ce qu'il fait est de la réalité ou de l'ordre du cauchemar ou du fantasme ou de l'obsession. Et en plus, on est constamment baladé dans deux espaces aux dimensions diamétralement opposées, c'est-à-dire l'immensité du désert, puisque quasiment tout est encore un road movie, donc on est en voiture, là encore, dans un désert. Donc il y a à la fois ces déserts à perte de vue et le côté un peu claustrophobe de la voiture ou de toute petite chambre d'hôtel dans lesquelles il s'arrête. Et donc, nous, on oscille en permanence dans ces deux dimensions et au bout d'un moment, j'étais complètement paumée, j'étais comme le héros, j'étais sidérée par la beauté et la violence soudaine de certaines scènes, parce qu'il faut dire quand même que le film a des images extrêmement fortes qui peuvent vraiment vous imprégner la rétine. Et donc, je trouve qu'il y a un sens de la mise en scène, du montage et un travail sonore absolument admirable.
Un film difficile à résumer, ça c'est vrai, tu as raison. Et on ne comprend qu'avec des scènes à la fin.
Et encore. Ah oui.
Quand ils sont habillés en flic, tout d'un coup,
on comprend des choses, mais
les origines un peu de.
Mais en tout cas, on est libre d'y interpréter nos propres fantasmes.
Ben, je suis à peu près d'accord avec tout ce que a dit Charlotte. Je trouve que c'est un film, en effet, qui est très long, mais dans lequel il faut, une fois qu'on a adopté le rythme, c'est assez fascinant. Je trouve que la frontière entre le réel et l'irréel passe très 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 bien. C'est au moment où l'irréel vire au surréalisme, c'est-à-dire au fantastique.
Ça, c'est la fin. Hein.
Oui. Et là, c'est pour moi, j'ai ressenti comme, d'abord, une légère lassitude, et peut-être, oserais-je dire, une certaine prétention de la part du réalisateur. C'est-à-dire que tout ce que tu as dit, Charlotte, c'est vrai, c'est un cinéaste incontestable, il crée un climat et tout. Il y a quand même une autosatisfaction, je suis un auteur, je fais un cinéma d'auteur, qui est un tout petit peu gênante par moment. Voilà.
Dans un décor qui le sert, il faut dire, parce qu'il est magnifique. Eric.
C'est vrai que c'est assez beau, qu'on ne comprend pas tout. Et le problème surtout, je trouve, que c'est que la forme du film, ce formalisme, nuit au sujet qui aurait dû être le paysage politique de l'Algérie dans ces années-là.
Oui, ça, on perd 94 très vite.
Oui, mais il n'y a pas de sujet. Alors, donc, si c'est pour nous dire que dans ce pays, tout le monde est cinglé, il y a des hallucinations...
Le sujet, au bout d'un moment, c'est la sauvagerie des hommes.
Oui,
c'est la sauvagerie des hommes en tant que
mais alors, pourquoi nous montrer une chèvre en train de manger un bras humain dans un couloir d'hôtel ?
C'est presque du Antonioni, si tu veux. C'est presque du Antonioni. C'est presque ça.
Oui, mais chez Antonioni, il n'y a pas de fantastique. Et c'est le moment où ça bascule là-dedans que je trouve que, du coup, ça perd beaucoup de son sel. Mais le type a du talent, il a quelque chose à dire, il le sait, Il a surtout quelque chose à montrer et voilà. Il sait le faire.
Oui.
Et il se regarde quand même un petit peu filmé. Voilà, ce mélange d'abstraction et de confusion, moi, m'a laissé un peu perplexe.
Xavier.
On va faire vite, c'est quand même un petit peu le paradigme du film de festival.
Voilà ce que j'allais dire.
C'est un peu film de festival. Bien gentil et je peux être vraiment le premier client pour ce genre de choses. Je l'avais vu à Cannes, je l'avais complètement oublié, je dois le confesser. Je l'ai donc revu. Il m'est un tout petit peu revenu en mémoire. La maladresse des comédiens également, parce que effectivement, il faudrait que S soit un excellent acteur pour tenir toutes les qualités scénaristiques et de mise en scène que vous attribuez au film. Hélas, il ne l'est pas, donc il a un jeu très réduit qui va tendance quand même à accroître cet abus de symbolisme, de métaphore, d'image, de surlignement, de machin. Il est possédé par un djinn ou il n'est pas déposé. Alors, c'est pas le pantalon, hein, évidemment, c'est une entité maléfique que l'on trouve dans les déserts au cas où.
L'esprit du mal.
Mais pour autant, je trouve le film inutilement décousu, assez prétentieux dans sa manière de faire entrer dans le cadre, effectivement, tout ce que je sais faire, en tout cas de la part du metteur en scène. Et c'est au détriment, pour moi, de l'unité et du côté un peu exponentiel que le film aurait dû avoir. Certes, il le résume à un moment, le pays est un asile de fous à ciel ouvert. Ok, on a bien compris. Mais la folie, comme le reste, ça se met en scène. Et je trouve que là, ça lui échappe un peu.
Oh, mais c'est mis en scène, Xavier.
Non, c'est mis en image. Non, je suis pas d'accord. C'est mis en image. Image choc, image parfois très belle, on est bien d'accord. Mais pour moi, ça n'est pas tout à fait
c'est
ce que j'appelle.
C'est Aboulela et c'est Amine Sidi.
Oh, elle n'est pas contente, Charlotte.
Non, elle n'est pas contente.
Sur les écrans, en version restaurée et haute définition, depuis le 8 juillet en DVD chez Carlotta, voici Crash, film de 96 de David Cronenberg, prix, j'allais dire spécial, très spécial du jury à Cannes, et toujours assigné d'une interdiction au moins de 16 ans. Un film idéal pour accompagner les départs en vacances et en voiture, puisqu'il montre comment les accidents de la route peuvent nourrir une perversion sexuelle. Il est adapté d'une nouvelle de James Ballard. Le héros du film, d'ailleurs, s'appelle James Ballard. Il est joué par James Spader. Et sa femme est Deborah Cara Unger. Ils forment un couple prêt à tout, y compris provoquer des accidents pour assouvir une sexualité très morbide. Avec Elias Koteas en gourou d'une secte d'accro au crash, qui prennent leurs pieds sur l'accélérateur, Holly Hunter, Rosanna Arquette, et même, c'est furtif, hein, David Cronenberg en vendeur de voitures, 24 ans après sa sortie en salle et l'énorme polémique qu'il a suscité. Que pensez-vous brièvement de ce Crash, Xavier?
Moi, c'est un de mes Cronenberg préférés. Je suis loin d'être un fan absolu de Cronenberg, mais un film sur l'acrotomophilie, j'y suis arrivé du premier coup, ça me plaît.
Moi, j'ai pas osé, hein.
Ah ben, moi, j'y suis allé, mais j'avais mis en gros et en gras, quand même.
Tu peux le refaire une fois pour voir?
Mais bien sûr, l'acrotomophilie, qui est donc cette perversion qui fait que l'on est excité par des corps amputés, des corps effectivement maltraités. C'est un film très sadien. Si on se rappelle de cette phrase du Marquis de Sade, pour jouir de nos plaisirs, il faut savoir les organiser. Et tout n'est dans le film qu'une organisation des plaisirs à la fois par l'image, à la fois par la lumière, à la fois par la mise en scène qui est extrêmement fétichiste dans sa manière de cadrer, et également par le mot, puisqu'il y a cette scène absolument formidable où Deborah Cara Unger demande à son amant James Spader s'il a déjà eu envie de coucher avec un garçon, et cette confession amène une excitation. La scène est assez prude entre guillemets par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, mais elle fonctionne terriblement. C'est vraiment un film qui, par tous les moyens du cinéma, mais après tout la caméra elle est voyeuse, elle est aussi l'instrument du plaisir, cristallise cette perversion. C'est pour moi un des meilleurs films de Cronenberg, parce que Cronenberg a toujours un petit côté quand même. Il est un peu tout dans le jugement moral. Il est jamais complètement pleinement dans la perversité de son
cinéma. Est-ce que j'ose dire que moi, je l'avais vu il y a longtemps, et là, je l'ai vu, j'ai trouvé ça très vieillotte comme
image.
Ah, ben
non, moi, je trouve pas. Je trouve qu'on continue à voir le métal comme ça, qui est très, très sonnant, l'obscurité relayée par les costumes, relayée par les scènes de nuit. Non, je trouve que ça fonctionne. Et pour une fois, il n'est pas dans le jugement. Il est vraiment, puisque c'est un roman qu'il adapte, à l'intérieur de cette perversité, et il en jouirait presque, et nous avec.
Eric.
Ben, est-ce que tout ça ne serait pas un peu démodé, effectivement? Ah oui. Ça m'a fait repenser à 9 semaines et demie, qui doit dater à peu près de la même époque, des films qui avaient fait un peu sensation. Et là, on regarde ça. Le livre est excellent. Hein.
Le livre est formidable.
Troublant. Mais là,
c'est mieux mis en scène quand même que 9 semaines et demie. Ah oui. Adrian Lyne,
un petit peu mieux. Oui. Non, mais ça fait partie de cette esthétique que tout le monde adorait à l'époque et qui tient pas vraiment le coup. Et puis quand même tout ce côté érotisme de station-service avec on va faire l'amour.
Ça, son charme.
Dans le lavage automatique, enlève tes attelles que je vois le moteur. Non, ça c'est un petit peu ridicule.
C'est drôle la mousse sur la voiture quand ils font l'amour.
Oui, c'est léger.
Oui, on l'a jamais
léger,
vu ça.
Non, jamais. Moi, ça me fait encore.
Mais cela dit, doit pas y avoir beaucoup de film américain où il est question de la Facel Vega d'Albert Camus, hein, parce qu'à un moment donné, il y a un type qui s'amuse à reconstituer les accidents voitures des personnes célèbres. Mais côté perversion, je préfère à nous les petites anglaises.
Enfin, on peut éviter avant de partir sur l'autoroute dans le sud, Charlotte.
Ben, c'est marrant parce que moi, je me souviens très bien, je l'avais vu à Cannes, à la projection officielle, et je me souviens du tollé qu'il y avait eu dans la salle.
C'était un scandale.
Mais
hein.
Un scandale. Les gens, des rangées entières se levaient en faisant claquer leur siège et en hurlant, c'est un scandale, c'est dégueulasse. Enfin, limite remboursé alors qu'on ne paye pas ses places.
Mais maintenant, avec la
et
limitation,
moi, j'étais jeune journaliste. Et j'avais été très impressionnée parce que c'est la première fois que je voyais une salle réagir à ce point à un film qui plus est en compétition au Festival de Cannes. Donc évidemment là je l'ai revu pour l'émission et alors moi je te rejoins Jérôme, je trouve que ça a terriblement vieilli quand même et même si l'esthétique tient quand même à la route parce que là pour le coup
même le jeu des acteurs.
Voilà, il sait mettre en scène, il y a une belle lumière et tout ça, j'avais oublié à quel point il y avait quand même une certaine douceur et une lenteur de tous ces ébats amoureux et de ces rencontres alors que sur le papier avec le sujet, on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu plus dynamique et violent, on va dire. Or, tout ça se fait dans une grande douceur. Et je me suis dit, mais alors d'où vient mon ennui ? Eh ben, je crois que mon ennui vient du fait que tous les personnages sont totalement interchangeables. C'est-à-dire qu'en fait, je les trouve assez mal écrits, les protagonistes, parce qu'ils ont tous la même obsession, ils partagent tous ce même fétichisme. Donc au bout d'un moment, bah, ils font la même chose, ils se disent la même chose dans cette petite communauté, et il n'y a personne un peu pour créer de la confrontation, du dialogue sur ce fétichisme assez particulier et je trouve que le film échoue à nous le faire partager à nous spectateurs et donc à l'arrivée bon bah c'est un long clip érotico automobilo sulfureux ou comme l'a dit justement Xavier mais j'ai déjà oublié
le nom. Tu veux dire un film sur l'acrodomophilie ?
Voilà, merci qui finalement est assez ennuyeux quand même.
Pierre qui n'a pas son permis.
Non. Non, mais ça m'empêche pas d'être pervers. Mais
oui,
enfin,
c'est... Non,
mais alors, oui, c'est peut-être pour ça que ce que j'aime pas, c'est que tu as dit que c'était très sadien. Alors comme je déteste Sade, ça doit être ça qui m'a un petit peu gêné. Parce que bon, alors moi, ce que j'aime vraiment, ce que je retrouve de beau dans le film chez Cronenberg, c'est le remodelage des corps. Ça, il sait très très bien le faire. C'est-à-dire, il invente toujours, par exemple, la blessure de James Spader ou de Rosanna Arquette, cette espèce d'attirail qu'il invente pour. Et là, il a toujours fait ça, et ça, il le réussit. Le fait que ça soit tous ils s'intéressent tous à la même chose, donc ils sont tous un peu interchangeables. C'est le personnage de Deborah Kara Unger qui me paraît vraiment très ridicule, parce que il lui a donné une petite voix comme ça, un peu sucrée, comme ça, et elle passe son temps à dire, oh James, est-ce que t'aimes mes cicatrices? Et là, c'est un peu
ridicule. Tu le fais très bien.
Elle n'a pas de cicatrices.
Tu confonds. C'est la seule qui en a pas.
Mais oui.
C'est la fin du film.
Alors, oh James, j'aime tes cicatrices. C'est aussi ridicule. Et le personnage est un peu ridicule. Oui.
Crash de Cronenberg, j'avais aussi inscrit, on a à peine le temps de l'évoquer, le Nico 88, sorti en VOD le 12 juin, en DVD le 7 juillet chez Condor, le biopic par Susanna Nicchiarelli de l'icône du Velvet, qui fut la chanteuse du groupe, enfin momentanément, et la muse d'Andy Warhol, 86, deux ans avant sa mort, à l'âge de 49 ans, elle entame donc une dernière tournée en soliste à travers l'Europe. Elle combat d'innombrables démons intérieurs, dont des tendances suicidaires, son addiction à l'héroïne. Et puis elle essaye de refaire sa relation compliquée avec le fils perdu de vue depuis longtemps, qu'elle aurait eu d'Alain Delon. Je n'ai jamais su quelle était la vérité, puisqu'il ne l'a jamais reconnue. Le film de 2018, réédité donc avec la danoise Trin Dirholm dans le rôle de Christa Pefgen, alias Nico, vraiment un jugement à défaut de pouvoir Pierre.
Très joli film. Un très joli film, avec vraiment une scène magnifique, c'est quand elle retrouve son fils et qu'on sait que ça va mal se passer, il y a une espèce de lenteur en même temps. Et les tournées, je les trouve très, très émouvantes et très belles.
Eric.
C'est vraiment fait pour les fans de Nico, et peut-être même pas, parce que c'est pas la période la plus glorieuse de sa carrière.
Bah, c'est la plus triste.
Ouais, oui, triste, oui, mais si on sait pas ce qu'elle a fait avant, c'est un peu embêtant. Et puis c'est un film misérabiliste sur la déchéance, ça peut avoir son intérêt pour certains, mais moi ça m'a vraiment pas emballé.
Charlotte.
Moi non plus, pas très emballée. C'est vrai que les biopics des chanteurs ou des grands acteurs, c'est souvent sur les dernières années, c'est le chant du cygne un peu crépusculaire de la star déchue. Moi, malgré la performance de Trin Dirholm, qu'on avait vue dans Festen notamment, c'était la sœur Pia, c'est une immense actrice danoise. Là, je comprends pas vraiment j'arrive pas à croire à Nico. Alors, c'est sûr que physiquement, on est quand même très loin, mais même au-delà de ça, cette voix caverneuse, peu aimable, colérique, voilà. ça m'a un peu ennuyée. Et par ailleurs, il y a le parti pris de refaire les musiques à la mode, on va dire, de l'époque ou telles que les faisait Nico, et c'est elle qui les chante. Et alors moi, ça a été vraiment très pénible à mes oreilles.
Xavier. Je rejoins Pierre. Moi, je trouve que c'est un film très touchant. Effectivement, l'actrice est absolument formidable. C'est tourné en Europe de l'Est, nuit à mont, on traverse les frontières, on cache de la drogue, ou au contraire, on ne peut pas. Et puis, ça se termine par la reprise par Nico de Big in Japan, d'Alphaville, qu'elle a sublimé et magnifiquement réinterprété, cette chanson pop sur laquelle on dansait en boîte, et dont elle filme balade.
Mais ça, c'est sublime. Quand
déchirante.
C'est elle qui chante, c'est sublime.
Ben ouais, mais le film, moi, me touche dans ses rapports avec sa troupe, avec les gens qui l'accompagnent, ses musiciens, son fils. Oui. Non, non, je suis entièrement d'accord avec Pierre.
Et c'est donc Nico 88 de Susanna Nicchiarelli. J'avais aussi inscrit, mais dans un premier programme, la réédition de Pluie Noire de Imamura, mais peut-être que vous allez en faire un de vos conseils, auquel cas je vais vous laisser parler. On va commencer avec le conseil de Charlotte.
Bon, on a été privé de salles pendant très très longtemps. On peut maintenant y retourner. Il fait chaud, il fait beau, c'est l'été. Donc moi, je vous conseille d'aller à la Villette où ils reprennent les séances de cinéma en plein air. C'est gratuit. Cette année, le thème, puisqu'il y a toujours un thème, c'est grandeur nature. Donc voilà, des grands espaces. Je vous le dis très vite, Easy Rider, Mad Max Into the Wild, Little Big Man, Grizzly Man, Thelma et Louise, La Leçon de Piano, Out of Africa. Enfin, il y a tous les plus grands films, on va dire, qui ont ces grands espaces et ce rapport à la nature. Ça se tient jusqu'au 23 août et c'est gratuit. Il faut juste réserver sa place sur le site internet de la Villette.
Et puis, il faut dire qu'on peut voir ces films en étant assis dans des transats et pas forcément
étoile.
Dans des voitures, puisque voilà. Ça a été la thématique de la soirée. Le conseil, j'espère. Imamourien.
Ah bah évidemment, je tiens Shohei Imamura pour un des plus grands cinéastes du XXe siècle. Pluie Noire est l'adaptation d'un roman d'un écrivain qui n'en a pas écrit tant que ça et qui raconte l'ostracisation dont sont victimes les justement victimes d'Hiroshima. Alors il y a une reconstitution d'Hiroshima qui est assez saisissante et assez époustouflante, mais ce qui l'intéresse, ce qui a intéressé l'écrivain et ce qui intéresse Imamura, c'est la manière dont les survivants ont été mis à l'écart, mal soignés, mal considérés. C'était des feignasses, ils foutaient rien, ils pêchaient la carpe puisqu'on considérait que la carpe allait soigner, le sang de carpe allait soigner les irradiations.
Et puis considérés comme des pestiférés, alors que déjà ils avaient été irradiés
mais
en plus.
Mais il y a une scène où ils sont trois rejetés, comme ça au bord d'un petit lac, et il y a une femme qui passe qui dit « Vous foutez rien de la journée, c'est pas possible, moi je bosse », et voilà. Et la manière vraiment, et c'était très japonais, hein, hélas, puisque encore aujourd'hui, il refuse de reconnaître les exactions de l'armée japonaise envers la Chine, c'est de mettre les problèmes en bord-cadre, de les éliminer sous le tapis, comme ça, et malgré ce statut victime, effectivement, au lendemain d'Hiroshima, ils sont déconsidérés par la population comme des tâches honteuses sur l'histoire du Japon. C'est un film magnifique.
Le conseil d'Eric.
Parce qu'il n'y a pas que Bergman dans la vie, la rétrospective du Suédois Bo Widerberg, qui est mort en 97 et qui a fait des très très beaux films qui rappellent par moments les premiers Malick, comme Elvira Madigan, Adalène 31 ou Joe Hill sur une grève aux États-Unis en 1912. Et ce sont des films très difficiles à voir et il y aura...
Et ça c'est en salle ça,
ouais,
Eric
oui. Ouais.
Le conseil pour finir de Pierre.
Alors tout à fait d'accord pour Pluie Noire, qui est un film absolument magnifique, qui était présenté à Cannes, qui est reparti de bredouille et que c'était une vraie injustice. Donc Pluie Noire absolument. Et puis en DVD, une édition d'un film chez Rimini de Robert Mulligan qui s'appelle Le sillage de la violence, 65, avec l'irémique magique, Steve McQueen formidable, et c'est l'histoire d'une femme qui vient dans une petite ville du sud des États-Unis rejoindre son mari qui vient de sortir de prison. C'est tout à fait émouvant et les deux interprètes sont magiques.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Xavier Le Herpeur, Pierre Murat, Eric Neuf pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin. Avec la collaboration de Lysiane Selam et aujourd'hui au théâtre de l'Alliance française à la technique. Et je les remercie, il y avait Claire Levasseur, Laurent César, Pierre Créin pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Notez bien que dans une semaine, on parlera de littérature ou disons de livres. Et je vous dis à samedi et dimanche prochain sur France Inter, évidemment.